L'art du théâtre de Sarah Bernhardt. Première partie. Les qualités physiques nécessaires aux comédiens. La mémoire. Il importe peu que la mémoire soit lente, passagère, durable, immédiate, profonde. L'artiste dramatique doit avoir de la mémoire. Sinon, il annonce ou attend le souffleur, ce qui est odieux. Vraiment, il n'y a plus qu'en France qu'existe encore le souffleur et son infâme petit cabriolet qui gêne la vue du spectateur et dérange généralement l'harmonie du décor. La vie du drame est troublée des défaillances de l'interprète. Ses omissions trahissent la pensée de l'auteur et déroutent le public. Ce n'est pas sans raison que Mnémosyné, mère des muses, était déesse de la mémoire. La mémoire est du reste très bonne personne, mais il faut s'occuper d'elle et ne jamais la délaisser. Il est des mémoires très fantaisistes. Mounet Sully retenait beaucoup mieux les vers que la prose. De Max, qui a une mémoire rétive, à celle des yeux. Il se souvient des points de repère au tournant des pages. Réjeanne avait une mémoire admirable, complète. Moi, je n'ai besoin de lire un rôle que deux ou trois fois, et je le sais, imperturbablement. Mais du jour où je cesse de jouer la pièce, le rôle m'échappe, emporté par je ne sais quel courant. Ma case mnémotechnique ne peut contenir plusieurs rôles à la fois, et il m'est impossible de prendre au hasard dans une tirade de Phèdre ou d'Hamlet. Et cependant, je me souviens des faits les plus infimes de ma plus tendre enfance. Il m'est arrivé d'avoir en scène une défaillance de mémoire assez considérable et dont je ne m'aperçus même pas. C'était à Londres, au Gaiety Theatre. J'avais été malade la veille, le surmenage m'avait provoqué de tels vomissements de sang que les docteurs Vintras et Parot s'étaient refusés à me laisser jouer le soir mon rôle de l'étrangère d'Alexandre Dumas. Je passais outre. L'opium qu'on m'avait fait prendre dans une potion me laissait la tête un peu lourde. J'entrais en scène, inconsciente et charmée par l'accueil qui me fut fait. Je marchais dans un rêve et distinguais mal tout ce qui m'entourait. Le son de ma voix me semblait lointain, très lointain. J'étais dans le vague délicieux que donne la morphine, l'opium ou le haschich. Le premier acte se passa très bien, mais au troisième, au moment où je racontais à la duchesse de Septmont, jouée par Croisette, tous les malheurs que moi, mistress Clarkson, j'avais eus dans ma vie, au moment où je commençais mon interminable récit, je ne me souviens plus de rien. Croisette me soufflait la phrase, je voyais remuer ses lèvres et je n'entendais rien. Alors je lui dis tranquillement, « Si je vous ai fait venir ici, madame, c'est que je voulais vous instruire des raisons qui m'ont fait agir. J'ai réfléchi, je ne vous les dirai pas aujourd'hui. » Sophie Croisette me regarda, terrifiée, se leva et sortit de scène, les lèvres tremblantes, ne me quittant pas des yeux. « Qu'avez-vous ? » lui dit-on, en la voyant tomber presque sans souffle dans un fauteuil. « Sarah est devenue folle. Je vous assure qu'elle est devenue folle. Elle a coupé toute sa scène avec moi. Comment ? Elle a coupé 200 lignes. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Elle a l'air très calme. » Toute cette conversation qui me fut racontée ensuite prit moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire. Coquelin, averti, fit son entrée en scène pour terminer l'acte. Le rideau tombé, je restais confondu et désespéré de ce qui me fut conté. Je ne m'étais aperçu de rien. J'avais, sous l'influence de l'opium, perdu pour un moment ma mémoire. Je la retrouvai heureusement pour le peu de choses que j'avais à faire au cinquième acte, dont je me tirais parfaitement. J'ose à peine dire que les spectateurs ne s'aperçurent pas de la coupure accidentelle que j'avais pratiquée dans la pièce de Dumas fils. Tout est bien, qui finit bien, mais une telle défaillance eût pu se terminer tragiquement. La mémoire la plus extraordinaire que j'ai jamais connue est celle de Gambetta, le grand tribun. Un soir que je dînais en sa compagnie chez Émile de Girardin, c'était, je crois, en 1869. Il me demanda de dire des vers de Victor Hugo dont il se disait le plus fervent des admirateurs. J'accédai de bonne grâce à son désir. « Voulez-vous, me dit-il, que nous répétions ensemble, Hernani ?»« Mais, répliquai-je, je ne me souviens pas du rôle de Donna Sol. Je l'ai appris au conservatoire, mais... » Il éclata de rire. « Comment ? Vous n'avez plus de souvenance de ces vers magnifiques que vous appreniez il y a 4 ans. Eh bien, moi j'ai appris toute la pièce, oui, toute la pièce, et je vais vous la dire. » Il répéta tout le premier acte sans omettre ou défigurer un seul vers, à la grande joie et à la surprise de l'auditoire, composé de 5 personnes parmi lesquelles Edmond Abou, l'auteur célèbre du roman d'un brave homme, et Albert Wolff, critique au Figaro. Amusé par notre étonnement, admiratif, Gambetta proposa de répéter Ruth et Boaz en commençant par le dernier mot du dernier vers. Il récita toute la pièce à rebours, non vers par vers, mais mot par mot. Il avoua savoir ainsi tout Hugo et tout Ossian. Les proportions du corps. Les qualités physiques qui, en tout autre art ou toute autre profession, peuvent être taxées de secondaires, d'accessoires, de négligeables, prennent chez l'acteur une valeur de premier ordre. Et ce n'est point là la plus faible démonstration qu'on puisse fournir des difficultés de la carrière. Peu importe qu'un peintre, qu'un sculpteur, qu'un musicien soit gigantesque ou petit, ils peuvent avoir la stature de David ou celle de Goliath, être démesurément gros ou infiniment mince, être doté de toutes les infirmités de la nature, s'appuyer sur des béquilles ou boiter, sans que leur mérite en soit le moins du monde diminué. Beethoven et Berlioz, Michel-Ange et Raphaël avaient le droit d'être pieds beaux. Nul ne s'en souviendrait. L'artiste dramatique est infiniment plus déshérité. Il faut que le comédien soit grand, bien pris dans sa taille, de visage expressif et agréable, que rien ne vienne déformer l'harmonie générale de son corps. Si sa taille est au-dessous de la moyenne, il lui est à peu près interdit de paraître en scène, à moins d'un extraordinaire génie qui effacerait aux yeux du spectateur le plus exigeant ce défaut contre lequel rien ne saurait prévaloir. Ici, l'étude, la volonté la plus tenace sont impuissantes. Il peut arriver qu'un homme remarquablement doué pour la scène, qui avec quelques pouces de plus eût laissé un nom glorieux, soit obligé d'abandonner l'art qui lui était le plus cher. Le spectateur réclame encore davantage de la comédienne. Pour elle, l'agrément physique, le charme, la séduction qui se dégage de la femme ne saurait être remplacé par la science la plus accomplie. Certes, à force de volonté, de travail, elle peut prolonger sa jeunesse, donner, bien après l'âge mûr, l'illusion de la fraîcheur et de l'adolescence. Mais si elle manque de la taille nécessaire, si elle ne dispose pas d'un minimum de grâce, ou à défaut d'originalité, si la nature l'a si mal dotée qu'elle ne puisse paraître à la scène sans déplaire à première vue, elle fera sagement en abandonnant toute prétention. Le conseil à donner d'ici aux artistes consiste donc bien à mesurer leurs forces, à ne pas assumer un rôle s'ils ne sont pas prédisposés par leur qualité naturelle à s'exposer en public, à renoncer au théâtre si le théâtre n'est pas fait pour eux. De même qu'il serait puéril de vouloir jouer la comédie si l'on manque de mémoire, si les mots et les réparties s'évadent du souvenir à peine appris et assimilé. De même, il serait vain, illusoire, absurde de fouler aux pieds ce que j'appellerais les ordres de la nature, et de passer outre à certaines règles élémentaires. Ici, plus que jamais, la maxime « connais-toi toi-même » est de mise. L'aspirant artiste, qui voudra demeurer aveugle à ses défauts physiques, qui aura la prétention d'effacer les plus visibles par ses autres mérites, risque fort de sombrer dans le plus désastreux des naufrages. Mais je n'en ai pas fini avec cette question. Il ne suffit pas qu'on se retire du théâtre si, malgré la vocation première et qui semble irrésistible, on est trop déplorablement doté du côté de la taille, du visage ou du corps pour y paraître avec avantage. Il faut encore que celui qui assemble le minimum des conditions requises s'adapte au rôle qui lui convient le mieux. Il y a les convenances intellectuelles et les convenances physiques, et celles-ci ne doivent pas moins que les premières entrer en ligne. Tout comédien ne sera point fait pour endosser le costume de Roméo, et toute comédienne ne réussira pas dans Chimène. Trop souvent au théâtre, des artistes qui ne peuvent, il est vrai, se soustraire à l'autorité directoriale, figurent à leur détriment des personnages qui ne se rapportent point à leur propre extérieur. Certes, la part de l'art est grande, mais encore une fois, elle n'est pas tout, et telle compromettra sa carrière qui, pour avoir assumé le rôle d'un barbon avec une voix trop jeune ou celui d'un amoureux transi, avec une démarche pesante et chancelante, aura exagéré ses forces et oublié les conseils de la sagesse la plus rudimentaire. S'il est excellent le principe de gouvernement, qui engage à mettre chaque homme à sa place et à mesurer son emploi à ses aptitudes, il est encore plus vrai au théâtre. Mais le discernement, et surtout celui que l'on exerce sur soi-même, est une des plus rares qualités en ce monde. Le comédien trop souvent s'envisage avec une excessive complaisance. Il veut représenter Hamlet alors que tout au plus son extérieur conviendrait au roi Lear. Tel artiste se croira ravissante en soubrette alors qu'elle est déjà placée par son âge dans la catégorie des duègnes. Renoncez à la scène si la nature vous l'interdit et n'acceptez des rôles autant que vous le pourrez que si vos traits physiques et votre apparence ne vous enjoigne pas de les refuser. La beauté absolue n'est pas nécessaire au théâtre. Une artiste peut avoir un visage vague et être à la scène parfaitement séduisante si elle est proportionnée, c'est-à-dire si elle a la tête petite, le col long, la taille courte, les jambes et les bras longs. Le visage d'une femme est rarement complètement laid, surtout s'il est animé du désir de plaire. Et c'est toujours le but de la comédienne. Quel que soit son rôle, celui-ci fût-il un rôle de marâtre. L'important pour l'artiste qui se destine à la scène est d'être bien proportionné. L'expression du visage se modifie sous la poussée des sentiments à exprimer. Un homme peut aborder le théâtre s'il est laid. Grand et de stature harmonieuse, il pourra jouer les amoureux. Son visage est beaucoup plus facilement modifiable que celui de la femme, grâce à l'artifice des barbes, moustaches et perruques postiches. Un artiste de grand talent et d'une élégance rare, Coqueluche des dames russes, car il était très joli garçon et de proportion parfaite, avait refusé de couper sa moustache. Et l'empereur Alexandre II lui dit un jour « Dis-moi, Berton, je vois qu'on joue demain Adrien le couvreur, donc, mon cher, tu ne vas pas jouer Maurice de Saxe avec ta moustache. » C'était un ordre, doux mais impératif. Et Berton coupa sa moustache. Ce fut un désastre. Les dames russes se sentaient outragées. Une d'elles, dit-on, s'évanouit et l'empereur, s'inquiétant de son malaise, apprit que la lèvre rasée du comédien était la cause du mal qui venait de terrasser la jeune femme. Alexandre se rendit sur la scène et, voyant Maurice de Saxe s'avancer vers lui,
« Dis donc, mon garçon,
tu es très laid sans ta moustache !» et se tournant vers le directeur courbé jusqu'à terre, qu'on retire la pièce des spectacles de la semaine. On ne la rejouera que lorsque le pauvre air aura retrouvé son poil. » Berton avait la lèvre trop courte et si mince et rentrée qu'on ne distinguait pas de démarcation indiquant la partie supérieure de la bouche. Cet homme qui avait de très beaux yeux et un beau visage, mâle et distingué, avait le bec de lièvre et sans sa moustache un air qui tentait le rire. Il eût été impossible à une femme de se faire admettre dans une école dramatique, ni dans un aucun théâtre, même comme figurante, avec un si pénible défaut. Les comédiennes ont, comme les comédiens, la possibilité de modifier, transformer même, leur visage, grâce aux artifices d'une perruque. Mais je le répète, le fait d'être doué des proportions exigées pour la beauté d'un ensemble dispense homme ou femme de se préoccuper de leur visage. Afin que l'harmonie dont je parle soit complète, il ne faut toutefois pas de taille démesurément haute ou exiguë. Les trop grandes femmes, au théâtre, même proportionnées, sont encombrantes. Elles dérangent toujours la perspective quand elles viennent du fond d'un parc ou d'une galerie. Les acteurs français sont généralement de taille moyenne. Ils ont en horreur de jouer avec de trop grandes femmes. Pour un homme, la haute stature ne peut nuire. Elle le casse dans la tragédie ou dans l'emploi des premiers rôles. En revanche, la petite dimension d'une femme lui sert pour jouer les ingénues ou les jeunes pages. Un acteur trop petit n'a aucune carrière. Un de mes parrains, car j'en ai eu trois, homme prétentieux, emphatique, à l'articulation lente et pâteuse, me disait « Tu sais, ma fille, tu n'es pas assez corpulente de forme pour réussir selon ton ambition. J'ai vu Mademoiselle Georges, eh bien, quand elle était en scène, on ne voyait qu'elle. Tout le monde disparaissait. » Mais, mon parrain, cela devait déranger l'équilibre des tragédies.
« Ceci est stupide, mon enfant. Je te répète qu'elle mettait tout le monde dans sa poche. »
« Eh bien, moi, je ne conçois pas Pyrrhus dans la poche d'Hermione, ni Hippolyte dans celle de Phèdre. » Et le méchant homme murmura sourdement, « Va, sois tranquille, ma fille. C'est toi qu'ils mettront dans leur poche. »
D'ailleurs, Mademoiselle Georges était admirablement belle, mais n'avait aucun talent, me disaient Le Gouvet et M. Thiers, deux hommes dont j'appréciais beaucoup le jugement. Que l'ombre de mon parrain m'excuse. Ce que ma minceur avait d'excessif, n'allait-on pas jusqu'à dire que je le faisais exprès, par souci de réclame, fut compensé par les proportions de ma personne, et je ne me laissais pas facilement mettre en poche. En résumé, le jury du conservatoire, préposé à l'admission des futurs artistes dramatiques, devrait surtout se rendre compte des proportions des néophytes et ne pas recevoir de petites femmes à grosses têtes ou de jeunes garçons aux longs torses, reposant sur des jambes courtes et cagneuses, même pour les comiques. Il est préférable que le rire soit le résultat de leurs études plutôt que celui des imperfections de leur corps. Car à ceux-là, qui doivent leur réputation à une difformité physique, je refuse le titre d'artiste, je leur laisse celui de pitre.
La voix est l'instrument le plus nécessaire à l'artiste dramatique. C'est elle qui fixe l'attention du public, c'est elle qui lie l'artiste et l'auditoire. Il faut qu'elle ait toutes les harmonies, graves, plaintives, vibrantes et métalliques. Jamais une voix ayant des trous ne permettra à un artiste le développement complet de son art, quelle que soit son intelligence. Il se butera à un obstacle intangible et cependant matériel. L'adresse du comédien peut un moment tourner la difficulté, mais sa carrière se trouvera limitée par un emploi spécial. Et la spécialisation dans un emploi est une pauvreté et un signe d'imperfection de la nature artistique. Celui qui se spécialise et n'aborde jamais que les rôles de valet ou de jeune premier n'est pas un artiste complet. Mais il arrive que le directeur ou public emprisonne le malheureux dans un emploi où il excelle et lui interdise d'élargir sa nature. C'est une erreur profondément regrettable. Je n'ai jamais vu Rachel qui, paraît-il, avait une voix ample et profonde, mais sans légèreté, ce qui ne lui permettait pas de jouer la comédie, malgré quelques essais aimables. Cependant, nul ne peut affirmer que l'illustre tragédienne, morte trop jeune, ne serait parvenue à vaincre les difficultés d'une voix un peu sombre, quoique pleine de charme, et d'une ampleur stupéfiante. La voix chez les comédiens et comédiennes se modifie presque tous les 3 ou 4 ans, souvent même change de timbre, ce qui permet à certains artistes disgraciés et voués aux pannes de se lancer dans un beau rôle, au grand étonnement de ceux qui les entourent et les avaient casés dans les utilités. La belle voix est souvent un don funeste si l'artiste ne s'en sert que pour donner du son. Il y a de jeunes tragédiennes qui sont à jamais confinées dans les rôles tragiques parce qu'elles ont la belle voix. Et cela est désespérant à constater quand on sait à quel point est bornée la carrière d'une tragédienne qui ne joue que la tragédie. Il y a au Théâtre français une jeune artiste qu'on enterre tout doucement sous les belles notes de sa voix. J'ai essayé de la révolter contre cet état de choses et lui ai indiqué 2 ou 3 rôles dans lesquels elle aurait pu réussir. Mais elle est douce et sans doute dépense-t-elle toute son énergie dans les Horaces, et c'est bien dommage. Une voix magnifique et complète était celle de Coquelin. Elle comprenait toutes les gammes, avait toutes les résonances. Et si Coquelin eût eu un nez ordinaire, il eût certainement réussi dans certains rôles tragiques. Pendant une tournée que nous faisions ensemble en Amérique, il me fit un jour la confidence de son chagrin. « Explique-moi, me dit-il, pourquoi je ne réussis pas dans les rôles dramatiques. Mais Coquelin, répondis-je, c'est à cause de ton nez. Il te laisse dans la grandeur et même dans la douleur une physionomie comique. Enfin, c'est stupide. Tiens, je vais te répéter Néron. » Je l'écoutais, certes, c'était très bien, et sa conception de Néron était intéressante, mais il n'aurait pas fallu le regarder. Le pli dans le front, le sourcil froncé, le regard aigu et beau ne suffisent pas à atténuer le comique de ce nez ouvert à tous les vents, humant la joie de vivre, et contredisant par son aspect le drame révélé par le front et les yeux. Coquelin
était un grand comédien, mais pas un grand artiste. Et l'harmonie, l'idée générale nécessaire à compléter la conception instinctive, lui échappait. C'est pourquoi il ne pouvait évoquer Napoléon, malgré qu'il en eût, et quand un jour il me déclara qu'il allait jouer Pétrone, je l'en détournais de toutes mes forces. Nul ne l'a remplacé, et ne le remplacera de longtemps, je le crains, dans les valets de Molière, dont il faisait des créations uniques. Pour que la voix soit réellement complète, il est nécessaire qu'elle soit très légèrement nasale. Un artiste qui aurait la voix sèche ne pourrait jamais attendrir le public. Mounet Sully avait une voix admirable, donnant tous les sons. C'est à sa voix mélodieuse, forte et vibrante, qu'il devait la plus grande part de sa réputation. Joignez à cette voix merveilleuse un corps aux admirables proportions, un visage de toute beauté, et infailliblement l'artiste acquiert une grande popularité. Il y a des voix brisées qui gardent un grand charme. Il y en a d'autres qui blessent affreusement les oreilles. Elles ne sont pas brisées, elles sont cassées, ces voix, et empruntent alors une tonalité canaille qui donne à certaines tragédiennes, aimées malgré cela du public de la Comédie-Française, une forme de réalisme prise par les ignorants pour du talent. Puisque je suis au Théâtre-Français, je parlerai de la très belle voix métallique et mélodieuse de Julia Bartet. Cette voix lui a permis d'aborder avec un égal succès la tragédie, la comédie et le drame, et par cela même de parcourir une carrière complète. Elle restera une des étoiles de la maison de Molière. La plus belle voix que j'ai entendue pendant mon interminable carrière, c'est celle de Soldini, le grand acteur italien. C'était tout un orchestre. Toutes les notes sortaient de ce gosier en parfaite harmonie avec le texte. La fureur, la douleur, l'apaisement faisaient place à l'ironie glaciale et toutes les manifestations se modulaient sans qu'il fût possible d'entrevoir le pont qui les reliait entre elles. Soldini était en outre un magnifique artiste. Une autre voix merveilleuse est celle de Lucien Guitry. Il a joué les grands rôles tragiques et dramatiques avec un succès égal à celui de ses interprétations diverses du théâtre moderne. Celui-ci ne demande aucune voix spéciale, je le reconnais, mais l'artiste n'a pu répudier le don que lui a fait la nature et son immense talent se double du charme indéfinissable de sa voix. On a le tort au conservatoire de faire travailler la voix à des êtres trop jeunes, surtout quand ils se destinent à la tragédie. Combien ai-je vu d'enfants de 15 ou 18 ans dont la carrière fut à jamais brisée par un professeur maladroit ou indifférent? J'ai eu la chance d'avoir 3 professeurs artistes célèbres, de grande autorité et de grande humanité, messieurs Provost, Sanson et Régnier. Ces hommes aimaient leurs élèves et les guidaient avec sagesse. Ils ne tenaient pas à leur succès personnel, mais à celui de leurs pupilles. Je me souviens que Provost refusa énergiquement de me laisser concourir 3 mois après mon admission, me trouvant trop jeune et trop délicate. Il s'opposa aussi à mon premier prix lors de mon concours. « Si vous lui donnez son premier prix, qu'elle mérite, je le reconnais, elle quittera le conservatoire trop tôt. Il lui faut encore 1 an d'études, sans fatiguer sa voix. » Cela me fut raconté par Régnier un jour que de méchante humeur je me plaignais de Provost. Il ne devait pas avoir la joie d'achever les études de sa petite révoltée, comme il m'appelait, et ce fut Sanson qui me conduisit à mon second concours. Grâce à ces professeurs remarquables, ma voix ne fut pas altérée, et cependant j'étais une passionnée de tragédie. Il faut ménager la voix des jeunes élèves le plus possible. On est toujours trop enclin à donner du son quand on a une belle voix. Les artistes, même les plus grands, parlent souvent trop fort, et pour cela, je citerai encore Lucien Guitry, qui trouve le moyen de donner toute une scène de vigueur violente entre cuir et chair, et retombera sur un seul mot métallique pour clore sa période. Et ce mot, il saura le choisir parmi ceux qui peuvent faire écho. Ah, le choix des mots dans une phrase! Mais cela demanderait toute une étude spéciale. Une artiste moderne qui avait une voix charmante, c'est Suzanne Reichenberg. Sa voix était douce, limpide, tel un joli ruisseau cascadant sur des roches. Mais cette délicieuse artiste n'eut qu'un tort, celui de se cantonner dans les ingénues. Quand elle voulut changer d'emploi, sa voix ne s'y prêta pas parce qu'elle n'avait été travaillée que dans un seul but. Reichenberg dut renoncer à la scène, bien qu'elle eût eu plusieurs années de théâtre devant elle. Réjeanne, la très grande artiste, rivale de la Duse, autre grande artiste, à laquelle elle était de beaucoup supérieure, avait une voix prenante. Cette voix avait quelques notes brisées qui n'ont pas permis à la merveilleuse interprète de jouer certains rôles qu'elle eût voulu aborder. Son instinct du beau l'a défendue contre la tentative. Elle sentait qu'à cause de sa voix, ses rôles de pur lyrisme lui échappaient. Mais combien plus beau fut le résultat qu'elle obtint dans certains autres où elle arrivait à l'idéal par sa conception du réalisme. J'ai bien souvent regretté, en l'entendant, de ne pouvoir être le créateur ou le praticien habile qui rendrait à cette voix chaude et prenante le tout petit rien qui lui manquait, non pas pour être celle d'une artiste complète, Réjeanne l'était, mais pour permettre à celle-ci de satisfaire son amour de l'idéal. J'ai cité la Duse. Je ne voudrais pas qu'on puisse croire que je nie le talent de cette grande artiste. Non, certes, mais je lui préfère de beaucoup le talent de Réjeanne, à laquelle elle ressemblait sans en avoir le côté aristocratiquement parisien. Bien souvent, des comédiens et comédiennes n'ont retenu l'attention du public que par le timbre de leur voix. Cela ne suffit pas. La voix n'est qu'un instrument dont l'artiste doit apprendre à user avec souplesse et sûreté, comme de ses membres. D'aucuns sont esclaves de leur voix. Ils sont séduits par les consonances des mots et se laissent aller à la cadence des vers ou de la phrase. Ils ont des effets de voix, et ceci est la plus pernicieuse des écoles. Je me souviens, alors que j'étais jeune fille et suivais ardemment les représentations tragiques de la Comédie-Française, je me souviens d'un effet obtenu par une tragédienne habile, en truc et sans talent, quand dans Andromaque, elle criait, affolée, à Oreste, « Pourquoi l'assassiner? Qu'a-t-il fait? À quel titre ?» Elle hurlait ces trois phrases, puis retombait, et calme, d'une voix creuse, elle ajoutait « Qui te l'a dit ?» Le public, averti par la claque, lui faisait un éclatant succès. Je mis 8 jours à essayer d'imiter ce « Qui te l'a dit ?» guttural, et comme je me désespérais de ne pouvoir le trouver, je fis part de mon chagrin à M. Provost. Cet homme charmant me demanda, « Voyons, si tu avais la force de jouer un tel rôle, comment toi-même dirais-tu ce vers ?» Et comme abandonné à mon instinct, je le lui déclamais selon mon idée, « Eh bien voilà, ma fillette, garde cela pour toi plus tard, et oublie le « qui te l'a dit » de cette belle voix. » Cette mode de faire des effets de voix s'est heureusement perdue. De ci de là en province, un tragédien ou une tragédienne a conservé cette mauvaise tradition. Il ne peut avoir de succès qu'auprès de ce public spécial qui va voir une tragédie pour y guetter au même endroit le même effet obtenu par les mêmes moyens dont l'écho lui a été apporté à la suite des générations successives. Pour savoir se servir de sa voix, il est nécessaire d'avoir l'oreille musicale, ce qui ne veut pas dire « il faut pratiquer la musique ». Cette oreille musicale coordonne les sons naturels que déclenchent les cordes vocales. Elle les guide, les soumet à une règle, les entretient sains et purs. Elle permet à l'orateur de se rendre compte immédiatement du changement d'acoustique s'il change de théâtre ou si la salle de spectacle est plus ou moins remplie de spectateurs. Il est des artistes qui, pendant les répétitions, enthousiasment l'auteur de la pièce nouvelle et les stupéfient le jour de la première. Et voici pourquoi. Il s'agit d'un artiste intelligent et qui dit juste, mais n'a aucun moyen vocaux. Il murmure son rôle avec l'intensité voulue. Cela ne dépasse pas les premiers rangs de l'orchestre. Et comme l'auteur, le directeur, le régisseur sont dans un petit guignol qui les protège du froid à 2 mètres de l'acteur, tous les mots s'engouffrent dans ce petit refuge de l'aréopage qui juge. Le jour de la première représentation, le guignol est enlevé. L'artiste n'est pas entendu. Ce qu'il fait est remarquable, mais pour 10 ou 20 personnes. La scène principale est par terre et l'auteur s'arrache les cheveux. Il faut donc que les comédiens songent à l'émission du son. Et cela encore, le conservatoire devrait l'enseigner. C'est un travail très dur auquel il faut s'assujettir. Quand on est persévérant, la récompense ne se fait pas attendre. Comme vous avez fait des progrès depuis l'an dernier, vous dit un parent sincère. Et on lit dans une critique, Mademoiselle X, à qui nous reprochons une mollesse de consonance, nous semble très en progrès. On n'a pas perdu un mot, etc., etc. On pourrait supposer que l'émission du son tient à la prononciation. C'est une erreur. Il est des artistes qui prononcent admirablement et ne savent pas faire porter leur voix. De même, en est-il d'autres qui hurlent et tuent les mots qui viennent avec les vibrations des mots déjà hurlés. L'émission du son dépend du degré d'ouverture de la bouche et particulièrement de la façon de respirer. Il ne faut jamais aller au-delà de son souffle. Il faut emmagasiner de l'air pour 4 vers ou 26 mots au moins. Cette gymnastique des poumons est excellente. On ne peut, dès le premier essai, dire 4 vers sur une seule respiration, mais on y parvient assez vite en ne laissant échapper l'air que doucement et lentement sur les mots. Il y avait un professeur célèbre, sociétaire de la Comédie-Française, M. Talbot, qui fut mon répétiteur et me donna les meilleurs conseils, mais qui, vers la fin de sa carrière, était devenu un peu baroque. Il faisait étendre ses élèves sur le dos, leur mettait sur le ventre la plaque de marbre de sa cheminée et leur disait « Maintenant, respirez et récitez votre rôle !» Ce brave Talbot exagérait un peu ses procédés. Mais sa première méthode de la respiration était excellente. La plus belle voix ne résiste pas au manque de souffle. Il faut donc à tout prix, pour être maître de cet instrument, l'assagir et le dompter. Et on n'y arrive que par la méthode respiratoire. Dans Phèdre, j'avais réussi à dire ces 4 vers sans respirer, tout en les modulant. Hélas, ils se voyaient avec pleine licence. Le ciel de leurs soupirs approuvait l'innocence. Ils suivaient sans remords leur penchant amoureux. Tous les jours se levaient clairs et sereins pour eux. Ces vers harmonieux et douloureux, dits ainsi dans une mélodieuse mélopée, étaient applaudis par le public, qui subissait un charme sans en approfondir le pourquoi. Francisque Sarcey, le grand critique, et le délicat écrivain Jules Lemaître s'étaient enthousiasmés pour la façon de dire ces 4 vers dans un murmure ininterrompu de sources. C'est Jules Lemaître qui parle.
La prononciation. La prononciation est une des qualités primordiales de l'art de dire. Certes, la volonté est le plus sûr facteur dans tous les actes de la vie, mais il faut aussi compter avec les défectuosités physiques. Une mâchoire un peu large donne l'essor aux mots. Un palais profond donne plus de sonorité qu'un palais plat. Les dents serrées les unes contre les autres empêchent le sifflement, tandis que tout au contraire, les dents écartées le stimulent. L'artiste doit alors chercher tous les moyens possibles pour combattre ses petits tares. Il en est que l'on peut atténuer. Par exemple, je connais une artiste qui jouait de grands rôles dramatiques. Ses dents distantes les unes des autres donnaient à sa diction un sifflement strident, énervant à entendre. Je lui donnai le conseil de mettre en se maquillant un peu de cire rose à l'intérieur de sa mâchoire supérieure. Le petit truc réussit parfaitement, et quand je l'ai entendu il y a quelques années, après l'avoir perdu de vue pendant une longue série de mois, elle m'a dit qu'elle avait continué ce petit masticage intérieur et qu'elle ne pouvait plus s'en passer, même à la ville. Les petites mâchoires rondes sont certainement plus jolies que les larges mâchoires, mais pour les artistes dramatiques, elles sont moins favorables à l'émission du son, et contre cela, il n'y a rien à faire. Le visage y gagne en joliesse particulière, c'est une compensation. Il en est de même pour la profondeur du palais. On ne peut l'augmenter ou la diminuer. L'artiste qui prononce bien se fera toujours entendre et par cela même comprendre. Un artiste n'ayant pas de voix la remplace par une articulation impeccable et se crée un public. Saint-Germain a été pendant 30 ans le favori d'un public fréquentant le vaudeville et le gymnase. Il avait totalement perdu sa voix et parlait comme les gens atteints de laryngite, mais il avait compris que l'articulation était un facteur indispensable aux comédiens et à l'avocat, et le public lui a donné raison. Il est certain qu'il ne faut pas articuler au même degré toutes les syllabes d'un mot comme le font les gens du midi, mais il faut à tout prix que dans l'enjambement, l'oreille devine la syllabe étranglée. Un tourangeau dira « manquement », un bordelais dira «
manquements, l'artiste parisien donnera la note juste par la légèreté de son enjambement. Pour être sûr de son articulation, il est nécessaire d'apprendre ses rôles en les mâchonnant lourdement et d'être maître absolu de sa mâchoire. Le bafouillis n'est souvent que la manifestation du manque de mémoire. Il faut aussi ajouter que les artistes médiocres pensent qu'un « à peu près » vaut un mot technique, mais ce petit livre n'est pas fait pour eux. Cependant, je ne voudrais pas que les sincères aux dons moyens crient que je les confonds avec les médiocres. Ce sont de petits artistes qui souvent méritent toute la reconnaissance des auteurs par l'ambiance qu'ils savent créer malgré leur modeste emploi. Ils aiment passionnément notre art, quoiqu'ils n'aient pas en main tous les atouts nécessaires au triomphe de leur carrière. Ils font partie de la grande famille. Les autres n'en sont que les parasites. La réelle difficulté de l'articulation tant au théâtre qu'au barreau est de savoir donner aux mots leur valeur. L'intelligence seule peut guider l'artiste, et il n'est pas de méthode pour transformer un être nul en être intelligent. Je conseille aux jeunes artistes d'aller voir et entendre le plus souvent possible Lucien Guitry. Ils se rendront compte du vouloir de ce grand comédien. Ils comprendront que les temps pris préparent le plus souvent une phrase qui est la pierre de touche de tout un état d'âme. Et de cette phrase, il y aura l'accent tonique sur le mot qui doit éclairer le spectateur. Lucien Guitry est le plus grand comédien de notre époque. Nul n'a joué et ne jouera comme lui le rôle de Flambeau dans L'Aiglon. Moi qui avais la grande joie de l'avoir pour partenaire, je l'écoutais passionnément. Son art est incomparable. Il ne se répète jamais, et il est cependant toujours le même personnage, créant la même atmosphère nécessaire à la pièce. C'est le plus beau modèle qu'on puisse recommander à la jeune génération. La très regrettée et exquise Réjeanne était elle aussi une artiste dans laquelle on pouvait puiser un sentiment de la vérité, une émotion sincère, une grande révélation de pensée dans les rôles joyeux ou douloureux qu'elle interprétait. Réjeanne avait comme Guitry le don du rire et des larmes, avec le même degré d'émotion poignante et de gaieté communicative. Du reste, tous deux sont deux grands artistes, en plus de deux admirables comédiens. Je me suis fait deux ennemis d'Irving et de Coquelin, parce que j'avais dit en privé que Coquelin était un remarquable comédien, mais pas un artiste, et que Irving, l'acteur anglais, était un médiocre comédien, mais un grand artiste. Je ne m'en dédis pas. Il y a une grande différence entre ces deux êtres. Irving avait une articulation, une prononciation défectueuse, mais son regard était plein de pensées. Il avait l'amour du beau. Ses costumes étaient toujours d'une grande vérité historique. Il se documentait avec passion et toute la mise en scène des pièces qu'il a montées était d'une recherche, d'un goût et d'une vérité telle que le public venait en foule assister aux représentations du Lyceum dont Irving était directeur. Grâce à lui, le théâtre anglais s'était créé un grand renom dans le monde entier et les Anglais reconnaissants ont placé sa dépouille à Westminster, dernier refuge des grands hommes serviteurs de la patrie. Irving a été pour le théâtre anglais comme Antoine pour le théâtre français, le poteau indicateur d'une nouvelle phase. Cependant, il ne se trouvait pas sur la même route. L'Anglais transportait son public vers le passé dans une magnificence de recherches et d'idéal, et l'autre l'arrêtait au seuil du réalisme et le forçait à pénétrer dans le labyrinthe des passions humaines. Tous deux furent les grands apôtres de notre art, et pourtant ni l'un ni l'autre ne furent de grands comédiens. Mais quels artistes ! Je n'en dirai jamais autant de Constant Coquelin, qui, lui, fut réellement un très grand comédien, moins complet que Lucien Guitry, mais aussi merveilleux dans l'impeccabilité de son articulation. Sa voix admirable savait moduler toute une phrase avec une virtuosité fabuleuse. Son rire était unique, et les esprits les plus sombres, les chagrins les plus poignants, se laissaient dompter par cette orgiaque gaieté. Il était surtout un grand comique. Il éclairait le théâtre de Molière d'un soleil fougueux et réconfortant. Il n'en vit peut-être pas toujours la profonde ironie, mais cela restait bruyamment superbe. La jeune génération de son époque a créé ses imitateurs, mais aucun d'eux n'a cette voix charmante et joyeuse, cette volubilité des mots s'entrechoquant sans accroc, cette science profonde de la respiration. Les imitateurs de ce grand comédien peuvent être bien dans leur genre, un point, c'est tout. Me voici éloigné de mon sujet. il me faut y revenir sans détour. Articuler, il faut que les jeunes comédiens articulent. Quelque talent qu'ils puissent avoir, ils n'obtiendront de réel succès que si le public peut saisir le sens de ce qu'il entend, et souvent un mot perdu désagrège toute une phrase. Il ne faut pas confondre articulation et prononciation. Ces deux servantes de la pensée sont sœurs jumelles, il est vrai, mais elles ont cependant plusieurs points différents. Les défauts de prononciation sont fréquemment la manifestation d'un accent dû au lieu de naissance de l'artiste. Les uns frappent sur les T ou les P, les autres roulent les R, d'autres les grasseillent, il en est qui claquent les A ou bourdonnent les O. Ce sont des particularités faciles à corriger. Il suffit de le vouloir. Mais beaucoup d'artistes ne se donnent pas la peine de détruire ces petits tares dont le public ne semble pas avoir cure. Il y avait de mon temps au Théâtre français une artiste de talent qui, dans Philiberte d'Émile Augier, disait « Il faudrait la poterie en donger pour que notre grand cœur daigne se déronger ». Quelques auditeurs se poussaient le coude. Les autres ne s'en apercevaient pas. Et cette artiste était, je le répète, une délicieuse artiste de talent. Le public ne tient pas rigueur aux comédiens de leurs petits défauts de prononciation, pourvu qu'ils fassent comprendre par leur articulation les mots qu'ils ont à dire. Il y a des artistes qui bêlent, d'autres qui chevrotent. Ce sont des défauts dus non à la prononciation, mais à la voix. Les uns ont le nez trop serré à la base, les autres les cordes vocales toujours congestionnées. Il y avait un artiste d'un immense talent qui bêlait à faire frémir. Le public l'avait adopté. C'était même un favori. Je jouais avec lui dans deux pièces où il a été au-dessus de toute critique. Et quand je partis en tournée avec lui pour jouer les deux pièces en question, le public étranger ne put se faire à ce bêlement et cet acteur dut revenir en France. Il existe une prononciation qui hache volontairement un mot pour lui donner sa valeur. Il ne s'agit plus alors de ces petites différences individuelles et non voulues. D'ailleurs, la façon de prononcer n'est pas la même pour les vers et pour la prose. Les artistes qui disent des vers sont sans cesse forcés de prononcer le muet pour laisser au vers ses pieds et sa valeur, tandis que dans la prose, on enjambe les e avec la désinvolture nécessaire à l'allègement des phrases. Exemple, comme il fait noir dans la vallée, j'ai cru qu'une forme voilée flottait là-bas sur la prairie, son pied rasait l'herbe fleurie, c'était une étrange rêverie, etc., etc. Si ce couplet était mis en prose, il serait dit beaucoup plus vite, sans tenir compte des e muets. On dirait qu'une forme voilée, presque en un seul mot. Ces différences de prononciation, dues à la sonorité accusée ou au contraire et l'idée de l'e muet, me ramènent à cette particularité de l'accent méridional qui frappe toutes les voyelles. Il est des cas où cette façon de parler, cependant bien française, devient ridicule et fait mourir toute l'illusion dont se nourrit le théâtre. Entendez par exemple un artiste marseillais interpréter un rôle de pasteur suédois. Mounet Sully et son frère Paul Mounet, nés tous deux à Bergerac, avaient, en venant à Paris, un accent de terroir très prononcé. Mounet Sully travailla avec acharnement à élégantiser sa diction. Il y parvint très vite. Il n'avait gardé de son accent méridional que le son un peu gras des R. Mais son frère, qui préparait ses études médicales et chirurgicales, trouvait inutile pour lui de s'imposer ce surcroît de travail. Lorsqu'il eut passé sa thèse et que le démon du théâtre se fut emparé de lui, poussé et soutenu par Mounet, il fit de son rêve une réalité. Il était trop tard pour perdre du temps. Il se décida à imposer son accent du Midi au public parisien, qu'il accepta de bonne grâce. Moi, je trouve que cela gâtait beaucoup le talent du comédien et donnait à Don Diègue, au vieil Horace et surtout au roi Œdipe une vulgarité douloureuse pour le spectateur qui n'oubliait pas la grandeur incomparable de Mounet dans ce dernier rôle. Nous avons parmi nos grands acteurs quelques comédiens étrangers dont l'accent devrait nous sembler plus pénible que celui du terroir de nos provinciaux. Cependant, je trouve que de Max, qui n'a jamais perdu son accent roumain et interprète les plus grandes figures du répertoire français, n'est jamais vulgaire et ne choque pas l'oreille du public. Il se laisse emporter souvent au-delà de la vérité par sa compréhension toujours idéale des personnages qu'il incarne. il est parfois aux limites de la folie, mais jamais il n'est commun. Un accent qu'il est réellement impossible de dompter tout à fait est l'accent auvergnat. Quand je passais mon premier examen au conservatoire, je restais figé dans ma révérence en entendant un jeune homme annoncer au jury d'une voix tonitruante « Mademoiselle Chara Bernard ». Cet homme était un lauréat de l'année précédente et malgré son premier prix de tragédie, personne, aucun directeur, ne voulait l'engager. Il dut se faire souffleur et je le retrouvai à la Comédie-Française comme second souffleur. Un soir, pendant la représentation de Gabriel, pièce stupide d'Émile Augier, l'acteur Thirion, qui avait oublié sa mémoire dans les vignes du Seigneur, resta quoi. Mon souffleur, Léoto, lui envoya cette tirade en termes propres. « Cha, madame, c'est une injustice !» Et Thirion répéta, mot pour mot, avec l'accent auvergnat, la réplique que lui avait envoyée le brave Fouchtra. Madeleine, Brohan et moi, qui étions en scène, ne pûmes retenir notre hilarité, et le public, très amusé et bon enfant, eut une véritable crise de fou rire. Le scandale prit cependant des proportions inquiétantes pour le pauvre comédien. Le surintendant des théâtres fit condamner Thirion à 1 000 francs d'amende, mais Léoto conserva son poste. L'accent gascon est moins brutal, moins lourd que l'accent de la Dordogne, et plus vif que l'accent bordelais, qui est traînard. Les artistes nés ou élevés à Bordeaux se défont assez difficilement de leur accent. Quand Cora la Percerie dit des vers, art où elle excelle, ce défaut disparaît presque totalement. Mais dans les pièces modernes qu'elle se plaît à représenter, souvent l'accent reparaît désobligeamment pour l'oreille du public. Mais qu'est-ce à côté de l'accent faubourien ? Je ne puis vraiment, quant à moi, prendre aucun plaisir à entendre un artiste, même de talent, qui prononce « mais, t'es, c'est » au lieu de « mais, t'es, c'est » ou qui lance, avec un galant mouvement d'éventail, « oui, sais-tu, homme charmant ?» Et cet accent-là, le conservatoire ne se préoccupe pas de le faire disparaître. Quand je fus nommé professeur au conservatoire, je croyais vraiment qu'on s'en remettrait à mon jugement au sujet des élèves confiés à mes soins. Je m'aperçus vite de mon erreur. Parmi les jeunes filles auxquelles je devais enseigner l'art dramatique, se trouvait une jolie faubourienne qui possédait un accent révoltant. « Oh, mesdames, me dit-elle un jour, mon auteur préféré, c'est Voltaire. » Avec une grande patience, je me suis mise à lui enseigner la manière de dire une scène de Suzanne, du mariage de Figaro. Après 5 leçons, que je jugeais inutile, je déclarai à cet enfant qu'elle ferait mieux de reprendre son métier de couturière. Elle alla se plaindre. Elle était gentille et peu farouche, elle eut gain de cause contre moi. Je donnai ma démission. J'ai revu cette petite personne dans un théâtre de province dans lequel j'étais venu donner une représentation de la Dame aux Camélias. Elle vint vers moi, souriante et toujours mignonne, et faubourienne, et comme je l'interrogeais sur sa carrière, « Oh, ça va, mesdames, je gagne ma vie. » Elle jouait les soubrettes et les ingénues. Elle paraissait heureuse, mais moi j'avais le cœur serré. Je la savais condamnée à gagner ses 200 ou 300 francs par mois tant qu'elle serait jeune, car elle était petite et menue et ne pouvait changer d'emploi. Que ferait-elle ensuite ? Elle deviendrait habilleuse ou ouvreuse. C'est ainsi que finissent tant d'artistes. Je connais une artiste jeune, de talent, de beaucoup de talent, qui joue non seulement des pièces modernes, mais aussi des rôles classiques. Elle possède un accent faubourien des plus douloureux à entendre. Et c'est dommage, car il lui faudra certainement beaucoup d'efforts pour prendre la première place qu'elle convoite. À quoi bon la nommer ? Si elle désire se corriger, ces lignes qu'elle lira pourront peut-être l'éclairer. Son art personnel et sincère y gagnera de l'élégance. Beaucoup d'artistes ont un accent qui leur est propre, ce qui rend facile les imitations. Celle qui écrit ces lignes serre un peu trop les dents, surtout les jours de répétition générale ou de première, alors qu'elle est saisie par le trac. Aussi, grâce à ce défaut et à une sveltesse exagérée, les caricaturistes et imitateurs, qui en réalité se ressemblent, s'en sont-ils donnés à cœur joie. Beaucoup n'ont dû leur petit renom qu'à des charges d'un goût plus ou moins douteux. Le destin a voulu sans doute que ces charges, loin de nuire à l'artiste, l'aient rendu populaire, et le public lui a pardonné ce défaut qui pesait peu à côté de ses dons de poésie et de la sincérité de son art. J'ai déjà parlé de la voix de Julia Barthet et de Suzanne Reichenberg, de qualité si belle. Leur prononciation n'est pas moins impeccable. Souvent, lorsqu'on vient me demander conseil, je leur envoie des élèves, afin que celles-ci profitent de l'élégance de diction de ces artistes qui n'ont aucune singularité d'articulation, aucun accent. Il n'est pas suffisant de se libérer de toutes les imperfections personnelles de prononciation. Il faut apprendre à prononcer afin de mettre en valeur mots et phrases. Que de défauts encore à éviter en cette matière ! La mollesse met en défaveur la prosodie d'un auteur. La trop grande virtuosité fatigue le public attentif et le débagoulage l'irrite. Il est donc nécessaire de s'écouter et de brider les mots ou de les accentuer. Lorsqu'un comédien comme Guitry étudie un rôle, il n'a pas besoin d'un effort de travail. Il est immédiatement dans la vérité. Qu'il s'agisse de sentiments tragiques, d'ironiques ou comiques, il les épouse aussitôt. Il n'a rien à chercher, aucun effort à faire, rien à reprendre ou à accentuer. Cela parce qu'il vit aussitôt la vie du personnage qu'il incarne. On ne devrait jamais travailler un rôle moderne. Il suffit d'éprouver les sentiments divers du personnage en cause. On se jette alors dans l'action et l'accent véritable qui vous émeut d'abord se reflète bientôt sur le public. J'ai entendu dire par des contemporains de Talma que cet artiste ne s'émotionnait jamais et enseignait à ses jeunes élèves surtout la maîtrise de toutes les passions qu'ils avaient à extérioriser. Coquelin soutenait du reste cette assertion avec âpreté, et je suis persuadé que c'est grâce à cette méthode qu'il n'a jamais pu soulever l'enthousiasme de son auditoire dans les scènes pathétiques qui lui plaisaient tant. Son succès dans le rire était formidable, mais il a toujours échoué dans le tragique, et comme une ironique lui dit un jour devant moi, alors qu'il se plaignait de son peu de succès dans Jean d'Acier, « Écoutez-moi, cher ami, vous êtes admirable de passion et d'émotion, mais votre nez vous fait du tort. Il est trop insolemment comique. » Constant Coquelin resta un instant pensif, puis, se tournant vers moi, « Est-ce votre avis ?» Je restais confondu qu'il pût prendre au sérieux un semblable argument. Je répondis évasivement en lui citant l'exemple de Lequin, tragédien de grande renommée qui était possesseur du même nez retroussé à l'excès et dont le masque ressemblait du reste à celui de Coquelin. Mais à partir de ce moment, ce grand comique eut recours à la pâte à nez pour tous les grands rôles qu'il eut à créer, et son nez et son menton furent soumis à des transformations successives. Cependant, le public restait froid devant les désespérances qu'il exprimait sans les ressentir, fidèle à sa méthode. J'ai vu cet artiste dormir profondément en scène, à l'abri des figurants, pendant 2 ou 3 minutes, alors qu'il n'avait rien à dire. Un jeune acteur nommé Chabert, qui lui était très attaché, le réveillait, et Coquelin, frais et reposé, par 3 minutes d'absolu isolement, rentrait bruyamment dans l'action. Cela me stupéfiait. Oui, je suis contre cette méthode. Je prétends qu'il faut éprouver tous les sentiments qui agitent l'âme du personnage qu'on veut représenter. Il faut laisser sa personnalité dans sa loge, dépouiller l'âme de ses propres sensations et la revêtir des grandeurs ou des tares qu'on est appelé à extérioriser. J'avais une femme de chambre italienne qui, revenant un soir de me voir dans Phèdre, me dit « Oh, que madame, il a été belle, mais je la reconnaissais, il avait changé sa coquille. » Et jamais compliment ne m'a été plus directement au cœur. Il faut aimer, pleurer, souffrir, il faut mourir. Ah, je vois le sourire, j'entends les réflexions. Cependant, vous qui êtes morte des milliers de fois de morts différentes, vous voilà debout encore, et cela à un âge avancé. Eh bien oui, c'est vrai, je suis encore vivante, et j'ai frôlé la mort réelle dans mes morts différentes. Il m'a fallu quelquefois plus d'une heure pour reprendre vie. J'ai eu le cerveau anémié, le cœur presque sans battement, la poitrine sans souffle. Mais j'avais gardé ce qu'il fallait de vouloir pour reprendre ma vraie personnalité, de même qu'il faut garder assez de sang-froid pour ne pas oublier son rôle ni la mise en scène. L'art de notre art est de ne pas se faire reconnaître du public. Pas un instant, il ne doit penser que ce n'est pas arrivé. Nous devons le tenir dans l'ambiance où l'auteur a voulu le transporter. Nous devons créer l'atmosphère par notre sincérité, et le public haletant, éperdu, ne doit, comme l'artiste, reconquérir son libre arbitre qu'à la chute du rideau. Ce qu'on surnomme le travail dans notre art ne doit être que la recherche de la vérité. Les pièces en vers, sans doute, demandent des interprètes possédant des dons spéciaux, mais toujours ce sera l'artiste le plus près du réel, dans l'idéal, qui triomphera. Le geste. Par geste, l'on ne saurait entendre uniquement les mouvements des membres, mais l'ensemble de l'attitude du corps. Il faut que dans l'artiste, tout vive à la fois, que tout exprime la sensation profonde qui l'anime, que l'œil, la main, la position de la poitrine, l'inflexion de la tête contribuent à l'effet d'ensemble. Or, le comédien de forte stature, de taille agréable, de voix élégante et fine, de conscience avisée, de haute intelligence, n'aura qu'un succès médiocre s'il est incapable de rendre extérieurement ses états psychiques successifs. Le côté extérieur de l'art est parfois l'art tout entier. À tout le moins, il est celui qui frappe le mieux. Si l'acteur qui connaît son rôle à merveille, qui a revêtu pleinement la personnalité de son héros, demeure immobile, les bras collés au corps, la tête toujours inclinée dans le même sens, l'œil mort ou terne, si le public ne sent pas devant lui un être de chair, de souffrance et de volupté, nul ne sera touché. Et c'est ici que se pose l'affirmation inverse de l'affirmation qu'on énonce généralement. Il faut pour convaincre que le comédien soit convaincu lui-même. Mais il ne suffit pas qu'il ressente en lui les crises violentes de la passion, il doit les exprimer au dehors. Mais le geste ne doit pas être désordonné, de même que la diction ne comporte pas seulement de sauvages éclats de voix, et que le public se lasserait d'un débit violent qui ne saurait ni se modérer ni s'adoucir. De même, il ne tarderait pas à trouver ridicule un artiste dont les attitudes déréglées ne correspondraient nullement aux états de conscience. La mesure doit régner en toute chose. L'homme ne saurait être indéfiniment froid, languissant, indifférent. La sérénité de l'esprit ne règne pas sans relâche. L'homme ne saurait davantage être en proie à l'émotion continue, se projeter en quelque sorte dans toutes les directions et entretenir en permanence un foyer dans son regard. Le geste, comme la diction, s'apprenne, se façonne à force d'études, se perfectionne avec le temps. Mais dans aucun cas l'étude ne remplace la nature, les dons innés qui constituent l'essence même du talent ou du génie. En règle générale, on doit dire à l'artiste « Travaillez, surexcitez votre émotivité, habituez-vous à varier vos états psychiques et à les traduire. » Mais il n'est pas d'exemple d'un comédien qui ait atteint le premier rang dans son art sans une vocation dessinée de bonheur. On ne forge pas plus artificiellement un grand acteur qu'on élabore un grand musicien ou un grand peintre.
Ici se termine l'art du théâtre, première partie, enregistrée par Christiane Johan pour audiocité.net.